Bonjour Yael.
Bonjour Juliette.
Bonjour David.
Salut Juliette.
Donc, bienvenue dans ce merveilleux podcast extrêmement professionnel.
Premier podcast, le pilote des podcasts Ultima Convention.
Bon alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de...
Vampire
Diaries.
Nous sommes très heureuses de t'avoir appris que David vient enfin de terminer de regarder la saison 1.
Ouais.
On applaudit pour la dernière fois. Un peu plus fort, Juliette. Voilà. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de faire une petite expérience podcastienne et d'avoir des discussions libres et sans complexe sur nos séries préférées, notamment sur Vampire Diaries. Donc, saison 1. La bonne nouvelle, c'est que ce podcast, ça va être Vampire Diaries là. Ensuite, on va commencer quand David pourra l'entamer. Une session True Blood au rythme de son visionnage, quitte à peut-être aussi parler d'autres petites choses de temps en temps. David, est-ce que tu peux commencer par nous donner en quelques mots ton impression à chaud maintenant que tu as enfin terminé la saison 1?
Mon impression à chaud de point, c'est de la balle.
Alors, juste pour le public, est-ce que tu peux dire en combien de jours tu as regardé la saison 1?
Les trois premiers, enfin les cinq premiers en 2 jours, puis une petite semaine de pause pour digérer tout ça, et puis après, je m'en suis fait 8 un premier jour, et le lendemain, les 9 derniers.
Impressionnant.
Joli, 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 très impressionnant. Nous, enfin moi et Juliette, on les a vus un par un.
Ouais.
Juliette, tu les as vus au rythme de la diffusion américaine, c'est ça?
Pas pour la saison 1, mais pour la saison 2, oui.
Ah, la saison 1, je les ai vus en bloc.
Voilà, la saison 1, je les ai vus aussi assez rapidement. Bah, j'avais récupéré tes épisodes, donc grâce à toi, j'ai pu aussi me faire la saison 1 assez rapidement.
Moi, j'ai un souvenir très particulier d'avoir vu la saison 1 qui est lié au fait que c'était une découverte lente. C'est-à-dire que j'ai commencé avec le premier épisode, que j'ai trouvé correct, mais pas si prometteur que ça. Et c'est vraiment graduellement que je suis devenue fan. Vous, ça vous a fait... Enfin, vous y avez cru tout de suite, à cette série?
Juliette,
moi, non. Bah, en fait, j'avais commencé à regarder la saison 1 quand ça a commencé à être diffusé. Et justement, j'ai pas tellement accroché au départ. Donc, j'ai laissé une pause. Et comme tout le monde m'en parlait, tout le monde me disait que c'était génial et qu'il fallait vraiment persévérer, j'ai récupéré tous les épisodes jusqu'à la fin de la saison 1. Et là, à partir du 6-7 à peu près, je suis... vraiment commencer à rentrer dans l'univers, et là je les ai enchaînés parce qu'on rentre assez rapidement ensuite dans la série, quoi.
Ouais, moi je me souviens que c'est autour d'épisode 4 que j'ai commencé à m'intéresser, et au moment où ils ont fait les vacances de Noël, donc après l'épisode 10, là j'ai senti les vacances de Noël passer, c'est-à-dire que j'ai vraiment attendu la suite. J'ai passé 2 mois à me dire quand même, j'aimerais bien un autre épisode. C'est généralement comme ça qu'on se rend compte qu'on est fan. Ouais. Et toi, David, tu as vécu comment?
De manière assez systématique, les gens m'avaient tellement dit les 5 premiers sont assez mauvais, il faut passer le stade du 5e et comment et vraiment attendre le 6e pour vraiment rentrer dans l'univers et dans la dramaturgie, que ça m'a fait un peu l'effet inverse. Je m'attendais tellement quelque chose de mou et de raté pour les premiers, que je me suis dit finalement ce premier épisode n'est pas si mal fait, ce deuxième épisode non plus, et puis en même temps voilà, le fait de ne pas avoir à réfléchir et à m'attarder trop sur ces premiers épisodes, puisque les 5 premiers, comme je l'ai dit, je les ai vus en 2 jours, j'ai commencé effectivement un peu timidement, mais je les ai quand même vus assez rapidement dans une durée de temps très court, et puis je suis très vite entré dans l'univers, et dès le 4e j'étais pas mal dedans, enfin même dès le 2e j'ai commencé vraiment à très vite entrer dans l'univers et voir les qualités et voir les prémices de quelque chose qui allait pas mal évolué dans le bon sens du terme, mais donc je suis rentré dedans dès le départ et j'ai vraiment commencé à être vraiment vraiment dedans entre le 6 et le 10 par là, mais dès le départ j'étais dedans.
Bon, t'as bien de la chance. moi justement je me demande, j'ai très envie de la revoir parce que ça m'arrive souvent avec des séries que j'ai trouvées moyennes au départ et dont je suis devenue très très fan par la suite. en revoyant le début, de me rendre compte qu'en fait, c'était toujours bien. C'est juste que j'étais pas habituée au format. How I Met Your Mother, par exemple, c'est un très bon exemple. Mais il y a aussi Supernatural, où à la revoyure, c'est vachement, vachement bien dès le départ, en fait. Je me demande si Vampire Diaries, ça fera pareil quand je la reverrai.
Non, c'est possible.
Bon, alors, un peu de best-of. Julia, tu l'as vu depuis un peu plus longtemps, donc les moments marquants, les trucs que tu préfères dans la saison 1, les trucs qui t'ont parlé, donc pas spécialement spoiler, plus personnage préféré.
Julia, tu as vu les épisodes qui te manquaient ou pas, puisque je crois que t'en
Non, il m'en manque, il m'en manque entre le je crois qu'entre le 8 et le 12-13.
Ah
oui, en fait, il me manque la fin de la série de storyline du début, en gros.
Ah oui, mais non, c'est le 14, la storyline du début, la fin de la storyline du début.
Alors, c'est peut-être le 14...
Non, puisque ça se termine d'avance, parce que ça, la première, entre guillemets, fin, quand Bonnie tombe dans le... Justement, quand on découvre la tombe pour la première fois et qu'elle tombe dedans et que...
Ça, c'est l'épisode 10, non?
C'est ça.
Ouais, ça, j'ai pas vu.
Bon, je les ai fournis.
D'accord, ok, ça marche. Maintenant, je viens.
Mais... Il y a un ami aux États-Unis qui me les envoie.
Et elle fait du trafic, on sait ça, on va avoir des soucis, on va se faire interdire.
Il y a un ami aux États-Unis qui me les envoie.
Oui, non, mais on a acheté les DVD en import.
Voilà.
Voilà. Moi, j'ai tout. Non, mais au rythme américain, parce que j'ai un ami aux États-Unis qui les enregistre de façon complètement légale et qui me les envoie personnellement.
Wow.
On a de la chance. Moi, ça me coûte 60 euros comme un DVD.
Oui, mais toi, t'attends.
Et moi, j'attends Yael les récupère et je pirate Yael. Faut être malin dans la vie.
C'est personnel, donc c'est complètement légal.
C'est une dealeuse de série.
Ah.
Non, absolument pas. Je n'ai jamais rendu qui que ce soit accro à quelque série que ce soit.
Absolument pas.
Revenons à nos moutons.
Donc alors, Juliette,
à nos vampires.
Best-of.
Personnage préféré, Damon, évidemment. Pareil, il a fallu un moment. Au départ, j'étais pas... J'avançais doucement, quoi. J'attendais un petit peu de savoir ce qui valait. J'étais pas forcément convaincue dès le départ. Mais bon, après, très vite, forcément. Et sinon...
Alors, on va continuer comme ça, alors. David, personnage préféré?
Ouais.
Stéphane.
Ah.
C'est évident, quoi. David,
ouais, ouais.
Ça se plante. Non, mais... Ok. Moi, Damon. Bien ouais. Sûr, Damon. Mais c'est ce que je disais à David récemment. Damon, c'est le personnage. C'est le personnage qui me touche toujours dans les séries. C'est le Spike, c'est le Logan de Veronica Mars. C'est aussi, je trouve, le Brian de Queer as Folk. C'est vraiment.
C'est beaucoup trop simple.
Mais c'est pas beaucoup trop simple. C'est des personnages très complexes.
Bah oui, ce côté damage, quoi.
Ouais, c'est ça. Torturé. Qui a souffert, qui a été abandonnée, c'est une âme ultra sensible qui a été abandonnée et rejetée, qui a dû créer sa propre identité au-delà de toute espérance d'appartenance et d'être aimée et d'aimer l'autre, et qui redécouvre le sentiment. Et c'est bouleversant. Quoi. Comment tu peux... David, mais comment tu peux rester insensible?
Et maintenant, une petite pause avec un concerto de violon.
Ça va pas.
Non, mais je suis d'accord que la recette est facile. Mais les personnages sont pas faciles. C'est-à-dire qu'évidemment, il suffit de quelques petits ingrédients, mais après, pour incarner un personnage comme ça, c'est pas évident. Donc, il faut quand même des acteurs qui arrivent à tenir le truc, quoi.
Effectivement, c'est un point important qu'il faudra parler sérieusement.
Tu peux pas développer un peu ton Stephen? Je pense que moi, j'ai un peu justifié mon Damon. Donc, dis-nous pourquoi Stephen.
Pourquoi Stephen? Justement, si au début, je m'attendais vraiment à la dichotomie, le petit gentil au cœur pur et le grand rebelle plus méchant. Et très rapidement, j'ai vu le personnage, c'est beaucoup plus complexe et surtout très très bien habité scénaristiquement grâce à toute l'équipe, à Kevin Williamson et c'est quoi, Julie Plec, c'est ça, la coproductrice et scénariste. Et aussi, évidemment, par Paul Wesley, qui m'a excessivement impressionné, comme ce que je vous ai dit la première fois que j'ai vu la première série d'épisodes, qui m'a fait vraiment rentrer dans la série, principalement. C'est que pour la première fois, depuis longtemps, la télévision, et surtout sur la CW, c'est-à-dire toutes les séries qu'ils font, c'est Gossip Girl, Smallville, Beverly Hills, Supernatural. On peut pas dire que les acteurs masculins, à part peut-être Jensen Ackles dans Supernatural, ils sont tous de magnifiques mannequins, mais ils jouent de façon très très monocorde, et d'un seul coup je me suis retrouvé face à un acteur qui justement avait le rôle du gentil, En général, le rôle du gentil, c'est très difficile de donner un peu de relief et de profondeur à ce genre de personnage. Et j'ai vu qu'en bout de 6 épisodes, on avait vu des aspects tellement différents déjà de ce personnage, alors qu'il nous est joué quelque chose d'assez monotone, un peu à la Twilight, c'est-à-dire le côté l'amoureux torturé qui doit résister à la tentation. Et malgré ça, il y avait un jeu, une finesse dans le jeu qui était assez impressionnante, surtout pour des séries qui se voulaient teenage et qui en général engagent plutôt des mannequins pour attirer les demoiselles du côté « regardez comme ils sont beaux ». Alors là, ils sont évidemment tous très très bien physiquement, mais lui comme les autres sont vraiment, vraiment géniaux, et je me suis attaché à Stéphane parce que c'était indirectement celui qui peut-être me ressemble le plus ou peut-être pas, mais je n'ai pas tant vraiment analysé la chose, c'est beaucoup trop récent dans ma tête, mais en tout cas c'est le personnage qui m'a le plus touché de façon générale et qui m'a surtout le plus surpris, parce que justement il était très différent du garçon gentil qu'on avait l'habitude de voir dans les autres séries.
Je suis assez d'accord avec ça. Assez d'accord avec ça. Je trouve que Stéphane, on dirait une vraie personne, c'est-à-dire que pour un personnage, c'est qu'il a tout le côté gentil, il essaie d'être gentil, mais avec toutes ces problématiques d'être humain, quoi. Enfin, ironiquement, vu que c'est un vampire. Ouais. Mais tu vois, le fait que oui, c'est pas parce qu'il veut être gentil que c'est facile d'être gentil ou que c'est évident d'être gentil. C'est la différence avec Edward de Twilight. Maintenant, en plus, moi je dois dire aussi là-dessus que Paul Wesley a joué avant dans Everwood, qui est une série que j'adore, dans la saison 2, un personnage qui était assez ironiquement genre le Damon de l'histoire. Mmh. Il jouait le bad boy, mais il était excellent dedans, et donc moi j'ai de toute façon une faiblesse pour lui, et c'est vrai que je trouve notamment le personnage de Damon beaucoup plus intéressant parce qu'en face il a Paul Wesley. C'est ces deux personnages, il y a vraiment un truc qui fonctionne et c'est agréable parce qu'on n'est pas dans justement le cas de figure où on trouve qu'il y en a un qui est mou et l'autre qui est intéressant. On est sur deux frères très intéressants.
Oui, la dynamique entre les deux est super intéressante.
Mais pour moi, c'est le sujet de la série. Hein. Pour moi, la série, ça parle de la famille.
Ouais.
Ça parle de la famille et il y a ce moment à la fin de la saison 1 où on commence à comprendre qu'en fait, ces deux frères, quoi qu'il arrive, en fait, le problème d'Elena, c'est pas qu'il y a un gentil et qu'il y a un méchant, c'est que ces deux frères sont dangereux pour elle de toute façon parce qu'ils sont liés l'un à l'autre et qu'aucun des deux n'est vraiment gentil, n'est vraiment méchant. Enfin, c'est le... Enfin, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Mmh. Et quoi d'autre? Best of? Trucs qui vous ont marqué, trucs qui vous ont surpris. Donc, David, t'as parlé du fait que les personnages masculins étaient incarnés, c'est ça?
Oui. Très, très 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 bien écrit, très très bien mis en scène. Bah si, c'est ça, le côté best-of. Qu'est-ce qui m'a marqué dès le premier épisode? C'est ça qui a fait en fait que je suis rentré dedans dès le premier épisode, j'avais oublié, mais évidemment, puisque je suis... Même si scénaristiquement, on en parlera, ça m'a aussi beaucoup marqué, mais ce qui m'a surtout attrapé, vu que moi... Je suis plus une formation de réalisateur et je suis plus dans l'image et l'esthétique, c'est la réalisation, c'est-à-dire que pour la CW a beaucoup de qualités, Smallville est très très bien filmé depuis le début, même s'il y a des grands nous scénaristiques, ça a toujours été très bien filmé, Gossip Girl a une photographie, c'est-à-dire tout ce qui est la lumière, les ombres, sublime. Enfin, il y avait un travail énorme de fait sur la CW. À l'Onatel, nous l'avions dit en convention, le but de la CW, c'est de faire quelque chose de beau, aussi bien au niveau des acteurs qu'au niveau de l'image, mais ce qu'il y a dans Vampire Diaries, c'est qu'il y a la diversité de tout ce qu'on voit dans toutes les différentes séries CW, c'est-à-dire qu'il y a des gros plans comme on en voit dans Supernatural, il y a une photographie très travaillée comme dans Supernatural ou dans Gossip Girl, il y a des choses un peu plus teenage et high school comme dans Beverly Hills, enfin, c'est un mélange de toutes les bonnes choses qu'il y a au niveau de la réalisation sur la CW, mais en même temps avec une vraie cohérence, c'est-à-dire que c'est toujours hyper cohérent, c'est jamais désuet, c'est toujours bien comme il faut, et surtout en plus c'est des choix esthétiques qui ont un sens par rapport au récit, j'ai pas encore eu le temps d'analyser précisément, mais là aussi par nature elle est très très bien filmée, c'est esthétiquement sublime, mais les plans n'ont aucun sens, les plans ne signifient pas par rapport au récit, là où dans Vampire Diaries, comme c'est beaucoup le cas dans Buffy, les plans sont très très significatifs, et ça m'a dès le premier, je me suis dit, oula, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé les 5 premiers épisodes malgré tout, c'est qu'effectivement scénaristiquement, il y a peut-être moins de choses que par la suite, mais c'est tellement travaillé.
Les symboles sont là.
C'est ça, mais effectivement, c'est tellement travaillé que l'esthétique complète le scénario qui est un peu light. Et finalement, il y a beaucoup de l'image qui dit peut-être plus de choses dans ces premiers épisodes que le récit finalement. C'est ça qui m'a attrapé. Et puis surtout, voir des très gros plans sur les yeux, même si pareil, ça a un sens par rapport au récit, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais. dans ce genre de série, ou alors très rarement, des fois dans Gossip Girl, quand un personnage est attiré par un autre. Mais là, vraiment, j'étais très très, enfin, ça m'a vraiment marqué, et à part, comme je te racontais, la photographie qui est très belle, mais qui en soi est un peu artificielle, c'est-à-dire que dans Buffy, c'est un vrai travail directement sur le tournage, on travaille les ombres directement, et c'est sublime. Là, c'est un travail un peu plus artificiel, c'est-à-dire que ça se voit, c'est très très contrasté, il y a beaucoup, c'est très 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 noir, c'est-à-dire en gros, c'est juste un bouton, entre guillemets, je raccourcis, mais à changer au moment du montage.
Ça oui, c'est l'étalonnage.
C'est ça, ça facilite beaucoup la tâche, et je trouve que ça, c'est un peu artificiel, et ça se voit, on sent que parfois, c'est un peu, qu'il y a un travail un peu artificiel de l'image, et c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble, après ça, au-delà de ça, c'est aussi qui m'a tout de suite été rattrapé, j'ai fait, waouh, c'est niveau réalisation pour la télévision, c'est assez poussé.
Bah alors moi, je vais parler du truc qui moi m'a... Donc alors, comme d'habitude, tu parles réalisation, moi je vais parler scénario, enfin je vais parler narration. Mais ça, c'est un truc que tu as ressenti aussi, parce qu'on en a parlé. On vous dit la vérité, en réalité, on en a déjà parlé il y a 24 heures avec David de Vampire Diaries. On a essayé d'attendre le podcast, mais on a eu trop de mal. Donc on a eu une petite conversation et où tu m'as dit quelque chose qui était plus ou moins ce que moi j'ai ressenti, qui est... moi, ce que je trouve génial dans l'histoire, c'est que pas tout de suite, mais au bout de quelques épisodes, Kevin Williamson et l'équipe des auteurs fait un pari assez incroyable, c'est qu'ils décident de déjouer, de détourner les codes du soap ado. Donc la série ado à rebondissement, et c'est intéressant parce que Kevin Williamson avec Dawson Creek avait déjà réinventé plein de trucs sur les séries ado. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il décide qu'au lieu... Le principe, enfin, c'est un prof de scénario m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit le principe d'une série soap, donc avec des rebondissements, c'est qu'il faut que les gens ne disent jamais ce qu'ils pensent. C'est que le spectateur sait toujours que quand il y a une conversation entre deux personnages, en fait, les deux personnages veulent autre chose que ce qu'ils disent. Donc, si vous pensez à Gossip Girl, c'est classique. C'est comme ça que ça se passe dans Gossip Girl. Sachant que déjà, Gossip Girl poussait un peu le truc en défaut. En allant plus vite.
Donc c'est tout le concept de Gossip Girl, c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages ne disent pas qu'ils cachent leur les choses, mais c'est Gossip Girl qui, c'est tout l'intérêt de la série qui fait le
voilà. Résister. Et surtout que eux-mêmes, des fois, tout d'un coup, finalement, décident de le dire et le dévoilent, et les choses se désamorcent très rapidement. Alors que dans un soap, ça prend des mois. Là, dans Vampire Diaries, ils se cachent pas les choses. C'est ça qui est incroyable, c'est que les personnages explicitent mais tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ressentent, tous les enjeux de l'histoire. C'est-à-dire que Damon quand il y a une tension entre lui et son frère, il l'a dit. Il dit tout. On sent comme on commence à voir une ambiguïté entre lui et quelqu'un. Parce que je voudrais vraiment pas faire de spoiler pour tous les gens qui n'ont pas encore eu le plaisir de regarder la série, que vous puissiez apprécier cette série et la regarder avec des surprises. Mais que s'il y a une tension sexuelle, par exemple, entre deux personnages, c'est dit tout de suite. Et c'est comme si tout d'un coup, l'idée c'était d'aller plus vite que le spectateur et les habitudes du spectateur. Et du coup, on est tout le temps bousculé. Parce qu'on sait, on les voit jamais venir. Parce que toutes les choses à laquelle on est habitué, ils les déjouent, ils les détournent, ils les font différemment. Ils disent, ah, vous croyez que maintenant, pendant 5 épisodes, on va voir ces deux personnages se rapprocher en espérant qu'il se passe quelque chose? Eh ben non. On va tout de suite dire qu'il y a un truc et on va tout de suite le désamorcer. Et ça, je trouve ça, non seulement c'est brillant, mais surtout, à regarder, ça rend la série très, 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 très excitante.
Et ce qui m'a beaucoup plu, ce qui est marrant, c'est quand je suis arrivé au final, je me suis dit que le final m'a beaucoup déçu. Alors que j'ai passé l'intégralité de la série à me dire, le final va être un petit épisode. Pourquoi? Parce que la structure narrative, effectivement, mais de manière, la structure générale de la saison, est totalement brisée. À partir du moment où, justement, ils consomment leur narration tranquille, enfin, vraiment comme il faut, sans faire provoquer d'attente, inutile, et sans jamais créer de flottement inutile, ça fait que la série avance tout le temps, donc il y a des climax dans le récit, des moments forts, à n'importe quel moment de la saison. C'est-à-dire que c'est pas parce que va y avoir la pause hivernale, ou parce que c'est le final, qu'il faut qu'un seul coup, l'épisode soit plus important, que d'un seul coup on arrive à un moment clé du récit, et bah, contrairement à une série qui d'un seul coup pendant deux épisodes, on comprend pas pourquoi, il y a deux épisodes indépendants, ou qui vont étirer les choses, bah là, c'est pas le cas. Les choses se passent comme elles devraient se passer, c'est ça qui fait qu'on est vraiment tout le temps happé par le récit, qu'on est effectivement toujours bousculé, comme tu l'as très bien dit, Yael. Et c'est pour ça que le final, finalement, c'est un très bon épisode, il y a pas mal, il se passe beaucoup de choses, sans spoiler, à la fin, effectivement, bouscule pas mal de spectateurs, et c'est très surprenant, mais il y a des épisodes beaucoup plus importants au niveau de la dramaturgie, au niveau des surprises, au niveau des révélations, au niveau de la tension dans la saison que ce final. Et sinon, ça m'a un petit peu déçu. Je suis disons un final un peu décevant. Mais finalement, non, parce que finalement, ça que j'ai aimé pendant toute la série, c'est que finalement, ils se fichaient totalement de la structure. C'est pas parce que c'est le final qu'on va spécialement faire un épisode où, comme par hasard, on va inventer des choses incroyables parce que c'est le final pour dire c'est le final. Ça, ça m'a beaucoup.
Je suis assez d'accord là-dessus. Moi, j'ai pas ce souvenir-là spécialement parce que moi, je l'ai vu le final à l'époque, et enfin, avec peut-être un mois de retard, mais donc en juin. Donc, j'ai pas ce souvenir-là spécialement. Pour moi, c'était un épisode marquant. Maintenant, je suis assez d'accord sur ce côté-là. Il faut savoir que les. Je sais pas si vous savez ça, mais le principe de l'épisode final marquant, c'est aussi le principe du fait qu'il y a un épisode toujours un peu marquant autour de novembre et un autre en février. C'est ça qu'on appelle ça les November sweeps, les May sweeps et les February sweeps. Et on parle de sweeps, donc c'est des espèces de balayage, donc le balayage de février, de novembre et de mai, parce que pendant longtemps, c'était le moment où ils vérifiaient les audiences.
Pour rendre les pubs.
Ah oui, oui.
Ouais, c'est-à-dire que Nielsen faisait des enquêtes d'audience toutes les semaines, mais en février, en mai et en novembre, ils faisaient des enquêtes beaucoup plus larges, et donc c'était les chiffres les plus importants d'audience. Et donc, du coup, les séries faisaient en sorte que à ces moments-là, il se passe tellement de choses, il faisait une promotion à la télé en disant « Attention, dans le prochain épisode, Ross trompe Rachel, par exemple. » C'est un cas typique, troisième saison de Friends, les February sweeps, donc le balayage de février. Ils ont fait la promo sur le fait que Ross et Rachel allaient se séparer, et c'était effectivement l'épisode qui s'est passé en février, pour faire monter l'audience. Et donc, tu as cette habitude de « Il se passe un truc important en novembre, il se passe un truc important en février, il se passe un truc en mai. » J'aime bien l'idée que Vampire Diaries essaye de détourner ce truc-là.
Et au final, surtout, en plus, en le détournant, c'est qu'effectivement, rester avant tout le temps, c'est qu'au final, les audiences sont bonnes tout le temps. Ça qui est génial, c'est qu'au final, c'est ce qu'on pourra. Parce que là, je suis sûr que les produits. Enfin, pour la chaîne, qui a son but, c'est de vendre des spots annonceurs et de la pub, pour eux, ça c'est une crainte. Parce qu'au final, ce qui est bien, c'est qu'en détournant le système, ils l'ont renforcé. Parce qu'au final, ça fait que les audiences de la série sont les meilleures de la chaîne.
Ouais. Il faut que je fasse une pause, les enfants.
Oui.
Je suis désolée, je reviens dans 5 minutes. Juliette, tu peux peut-être, pendant que je suis partie, nous dire pourquoi toi, ça t'a particulièrement marqué Vampire Diaries, qui, toi, la raison pour laquelle t'es...
Parce que ça t'a marqué déjà, c'est peut-être aussi...
Oui, si. si, mais bon, pas grand-chose à rajouter de ce que vous venez déjà de dire. C'est vrai que c'est vraiment entre la réalisation et la narration, c'est déjà les points les plus importants. J'aurais à peu près dit tout ce que Yael a dit surtout, puisque je suis généralement...
I'm back.
Oui. Ah, t'es déjà revenue?
Oui, finalement, j'ai...
D'accord, oui, bah, c'était rapide. Hein?
Désolée.
Ouais,
j'ai entendu ce que disait
non.
Yael.
Voilà, je disais que j'aurais eu tendance à dire à peu près tout ce que t'as dit, parce qu'effectivement, moi, je suis de façon générale un peu moins sensible à la réalisation, parce que je suis toujours sensible à la couleur. Je trouve que la couleur est très belle, mais c'est plutôt des questions d'étalonnage, effectivement, ici, que de vraies couleurs directement créées sur le plateau. Mais après, oui, je suis plutôt sensible à la narration, au dialogue entre les personnages, à la dynamique et surtout au côté émotionnel. Donc je trouve que les personnages, effectivement, sont très bien caractérisés, sont hyper profonds, sont vrais surtout. C'est une série qui paraît assez réaliste dans ses personnages, qui va un petit peu au bout. Et qui
c'est incroyable, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est assez rare dans une série. Donc, et puis il y a un vrai...
Je trouve que les sentiments adolescents sont super bien...
Oui, c'est ça, ils arrivent vraiment à...
Dépeints, merci.
Joli mot.
Fini de parler, Juliette, excuse-moi, je t'ai interrompu une fois de plus. Sorry.
Non, mais oui, non, voilà, enfin, en gros, c'est ça le... Non, c'est ça.
Non, mais c'est ça, en fait, c'est les personnages adolescents... Oui, je t'ai interrompu encore, je sais. Les personnages adolescents... Enfin, l'adolescence, c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois ces personnages... Même les vampires, parce que les vampires sont aussi en fait à un âge restés à un âge adolescent, expriment tous les émois, les émotions, le côté un peu kitsch romantique de l'adolescence, et aussi torturé. Jeremy, notamment le petit frère, représente beaucoup ça. Et en même temps, ils sont tous ultra modernes.
Oui.
Que ce soit le rapport à la sexualité, que ce soit le rapport aux drogues, que ce soit le rapport à l'alcool, le rapport... Puis aussi le fait que c'est beaucoup... La plupart des adolescents sont des adolescents qui ont dû grandir par eux-mêmes, soit parce que leurs parents sont morts, soit parce qu'ils sont absents, soit parce qu'ils sont irresponsables. Et du coup, on a cette espèce. Ils ont vraiment réussi à avoir ces deux côtés, ce côté très. J'écris un journal intime parce que c'est sur ça que ça commence au départ, et en même temps, voilà. Mais on est des adolescents du 21e siècle. Ça veut dire que à la fois on est privilégié dans des périodes où on peut se regarder le nombril pendant des heures, mais aussi qu'on grandit plus vite. On est, enfin, c'est ça qui est intéressant dans notre époque, c'est que on devient adolescent beaucoup plus tôt qu'avant, mais on le reste beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que maintenant, les gamins de 12-13 ans déjà sont exposés à des choses d'adolescents, et en même temps, voilà, on est tous des tanguis en puissance, quoi. Je trouve que cette série arrive à avoir ces deux côtés-là. Enfin, effectivement, je trouve que c'est très réaliste. Beaucoup plus que justement Gossip Girl. Ce qui est très drôle, parce que bon, c'est quand même les vampires, les sorcières, les machins. Donc, voilà.
Bah, c'est David, je crois, qui m'a dit, par rapport à, je crois que c'est au réalisateur ou au créateur, c'est qui a travaillé sur les deux, c'est entre Dawson et Scream, quoi. C'est le c'est ça, David, c'est le réalisateur qui a travaillé.
Le
scénariste, voilà, c'est ça.
Scream.
Donc du coup, effectivement, c'est vraiment ça, quoi. C'est le côté à la fois Dawson, qui était quand même très très bien. On avait des vrais personnages qui existaient vraiment et qui étaient hyper intéressants, finalement.
Bah, la dynamique Percy, Dawson, Joey, c'est-à-dire qu'on retrouve.
Oui, c'est ça. Hein. Ouais, c'est tout
oui,
à fait ça.
Oui, ça aurait été Percy, pas Percy, s'il te plaît.
Percy.
L'homme le plus beau de la Terre. Bon, pardon, désolé. C'est Jackson. Yay! Sorry, pardon. C'était Yael qui s'est perdu.
C'est pas le nom d'un chien dans un Percy. C'est dans Buffy, Percy. Oui, c'est le nom du type que Willow apprend à...
Ah oui,
à
c'est ça. Exact.
Celui qui vient dans la saison 4 et qui l'appelle un nerd.
C'est ça.
Non, elle appelle le geek.
Alors là...
Elle appelle le nerd. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est dans l'épisode... c'est l'épisode 11 de la
saison.
Non, c'est 11, c'est Doomed.
C'est ce que j'aime
dire. Comment tu disais 12? Excuse-moi. Comment est-ce qu'on a encore réussi à parler? Et au fait, il y a quelqu'un qui bosse dans Angel. Ok, vous savez sur Angel ou sur Buffy qui est dans Vampire Diaries, quelqu'un sait qui c'est?
Ah non.
Parce que j'écoutais un podcast qui parlait de la saison 2, no spoilers, t'inquiète pas, et quelqu'un disait ah cet épisode, on sent bien que c'est celui qui a bossé sur Angel qui l'a écrit. J'ai fait ah.
Mais non, pas que, non, mais comme je disais, effectivement, il a travaillé sur Scream, et dans Scream, déjà, il a écrit Scream, c'était de détourner les codes du film d'horreur et entièrement jouer avec, c'est connaître par cœur les codes de tous les films d'horreur pour mieux les détourner, pour mieux jouer avec. Et c'est ce qui fait le génie des films, qui fait que c'est des films qui sont devenus cultes. Et c'est ce qui fait dans Vampire Diaries, effectivement, on a le teenage drama très habité, très bien écrit de Dawson Creek. Et on a l'aspect horreur sans concession et en même temps très intelligent de Scream.
Exactement. Ah non, c'est super intéressant. Le mélange est assez...
savoureusement bien fait.
Exactement. Bon, alors sans spoiler David, ni qui que ce soit d'autre... Tu as vu combien d'épisodes de la saison 2, Juliette?
Je suis à jour, donc 9, 10, 10, 10, ouais.
Non, 9, je crois.
9, 9.
9.
Le deuxième est diffusé cette semaine.
Pour l'instant, ton niveau d'excitation entre 1 et 10?
Bien, bien, bien. Pour l'instant, ouais, non. Pour l'instant,
entre 1 et 10, bien, bien, c'est ça ton niveau de bien, bien, bien.
C'était un bien bien hyper addictif.
C'est ça, c'était quand même un bien bien assez excité. Hein.
Ah oui, on sentait le. Non, elle était agitée.
Moi j'en ai vu que 6 et moi aussi à fond les ballons. C'est juste que j'ai pas eu le temps de regarder la suite et surtout j'ai envie. Enfin, moi j'aime bien faire un petit rituel quand je regarde Vampire Diaries et être bien confortable devant mon ordinateur. Et là j'avoue que j'ai pas eu le temps, mais moi pour l'instant j'ai adoré. David, toi tes attentes?
Bah juste vite fait mon best-of avant avant d'enchaîner sur effectivement, mais à mon avis ça peut être la conclusion aussi, le à suivre pour la prochaine fois.
Tu as lu dans mes pensées
de mes idées pour la saison 2, mais non, bah les scènes qui m'ont marqué, alors étant attaché au personnage de Stephen, la scène où il est. Alors j'ai pas trop aimé l'épisode en soi.
Attention, on ne spoile pas.
Non, bah, pareil, on ne peut plus rien dire. Bah,
la scène où on découvre son côté sombre, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça, et je dirais quand même, si, ça, je pense que je peux le dire, et la scène de danse entre Damon et...
Bah, justement, c'est rigolo, parce que tout à l'heure, en préparant pour le podcast...
Oui,
avec,
on a regardé la scène,
donc par ordinateur interposé, au téléphone, et moi, j'avais la larme à l'œil, hein, je dois le dire.
Ah non, c'est la scène.
Pour ceux
magnifique.
Qui n'ont pas encore vu, épisode 19, vous comprendrez. Pour les autres, voilà.
Donc, on parle.
Voilà, donc nos souvenirs, donc. Enfin, souvenirs, attends, je sais plus ce que je dis.
Mais l'attente pour la saison 2.
Oui.
Justement, bah déjà, je dirais que c'est presque frustrant de ne pas pouvoir me refaire d'un seul coup les 22 qui ne sont pas encore sortis, parce que c'est un vrai plaisir de me les faire à la suite. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Bon, il y en a déjà 10, c'est déjà pas mal. Mais bah, j'espère qu'il y aura des conséquences. Je crois que c'est pour ce soit le cas. Au niveau de ce qu'a fait Bonnie à la fin de la saison, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le final, dont la mort d'un des personnages principaux, c'est du elle. Donc j'espère qu'il y aura des conséquences par rapport à ce qu'elle a fait sur sa relation avec Elena et tout ça. Très intéressé aussi par ce qui va se passer quoi, avec le fils de son prénom.
Attention. Hein.
Par le fils Lockwood, vu ce qui se passe, vu les deux, trois petits indices qu'on a eu en saison 1 qui sont très très bien distillés, mais en même temps très clairs. Sur sa nature et ce qu'il est réellement, donc puis j'étais un peu spoilé, donc je sais qu'il y a plus ou moins ce qui va être révélé dans la saison 2, mais je suis très intéressé par savoir comment ça va être amené, puisque ça va être un bon moyen d'étoffer la mythologie. Et puis surtout, maintenant qu'on a vu que les personnages des deux frères étaient extrêmement complexes et voir jusqu'où ils vont aller, maintenant on a eu plein de petites pistes sur les caractères de chacun. Comment maintenant ça va être développé encore plus fouillé, encore plus travaillé scénaristiquement, esthétiquement, et puis surtout comment Nina Dobrev va nous interpréter.
Pas de spoiler.
Ses deux rôles, Catherine est déjà présente dans la saison.
Oui, mais les gens ils ont peut-être pas vu. Non, je suis désolée, je fais la police des spoilers. Oui, je suis. Non, c'est. Ouais, c'est des attentes assez justifiées. J'avais envie de dire un truc passionnant qui m'est sorti de l'esprit par rapport à un truc passionnant que tu viens de dire. Sur un des deux.
Et vous saurez la prochaine fois.
Les indices dont tu parlais sur Tyler Lockwood, sans les révéler, il y en a un dans l'épisode 10 de la saison 1. Et je crois que c'est un des moments où je me suis dit qu'est-ce que j'aime cette série. C'est que tout d'un coup, il vous lâche un symbole absolu avec un plan, juste un mouvement de caméra. Et ils n'en parlent pas pendant 10 épisodes, mais juste ce mouvement de caméra, quel clin d'œil à tous les gens qui veulent faire attention aux détails, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça très fort et très. À la fois, c'était drôle et à la fois, c'était intelligent et c'était subtil et c'était. Enfin, voilà.
Donc, au début, on peut dire, oui, oulala, ou est-ce que ils ont oublié une de leur storyline quand on remarque, et finalement, ce qui est bien fait, c'est que sur la fin de la saison, ils distillent d'autres indices en disant qu'ils font écho à ça, et que d'après ce que j'ai compris, la saison 2. Est quasiment entièrement centré là-dessus, donc ça va être intéressant.
Ah, quoi ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, David. Alors, moi, je voudrais vous dire, donc pour conclure ce podcast, parce que je pense qu'on peut le conclure, le premier podcast, moi, je voudrais proposer à tous les gens qui ont eu la gentillesse et le plaisir, on espère, de nous écouter, de venir nous dire sur les commentaires auxquels vous avez accès en dessous du podcast. Si vous avez déjà fini la saison 1 de Vampire Diaries, si vous aimez, ce qui vous plaît, votre best-of, ce qui vous plaît pas aussi, tant qu'à faire, pour qu'on puisse avoir des discussions endiablées sur le sujet. Et pour tous les autres, on vous encourage vivement à la voir, cette série, parce qu'il y a vraiment, vraiment de quoi parler, et puis surtout, c'est très, très, très plaisant à regarder. D'autres choses à dire, les enfants ?
Moi, je suis très content de notre premier entretien sur des vampires et j'espère que la semaine prochaine on aura plein de nouvelles personnes pour entendre ce qu'on a à dire sur les 10 premiers épisodes de la saison 2 de Vampire Diaries et j'espère qu'on les verra peut-être aussi en direct live en chair et en os dans 5 mois puisque ça se rapproche à la convention et qu'on pourra parler de manière aussi passionnée avec eux parce que je pense qu'effectivement il y a plein de choses à dire sur Vampire Diaries et qu'on va encore dire plein de choses dans les podcasts à venir et évidemment aussi, a priori, sur True Blood, pareil, quand j'aurai rattrapé mon retard.
Merci à tous ceux qui nous ont déjà suivis, j'en suis sûre. Et voilà, et également assez contente de notre premier podcast. On a enfin réussi à en faire un, ça faisait très longtemps qu'on voulait vous préparer ça. Donc voilà, je pense que ça nous fait à tous très très plaisir.
Bien sûr, suggestions, commentaires, critiques, constructives et gentilles, s'il vous plaît, les critiques.
Allez-y, oui.
Je suis extrêmement sensible, attention. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Non, attends, regardez, j'ai pas fini. Donc voilà, en gros, on vous aime. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire, non, si.
Si, on les aime aussi.
On vous aime. vous mords. Non, c'est pas ce qu'il faut dire.
On vous apprécie subtilement et modérément avec beaucoup d'affection.
Exactly.
Exactement.
Bon, bon, sur bah. Ces bonnes paroles.
Plein de bonnes choses. Préparez les fêtes, c'est la fête. Et à la prochaine pour Vampire Diaries, saison 2, épisode 1 à 10. Merci à tous.
Merci, à bientôt.
Ciao.
I can feel
trouve que ça, c'est le vrai podcast. Hein. Ça, on met tout ça en ligne.
C'est ça. Non, je remixe après. Hein. Mais...
Ah merde, c'est toi qui allais vendre.